Pâques. Le dimanche de Pâques, on a vu vendredi que pour les Juifs, Pâques était vendredi. L'agneau pascal a été crucifié. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Donc, un matin, qu'est-ce qui germait dans mon esprit cette semaine à travers la prière, c'est de mettre la prédication, qu'est-ce que c'est vraiment la résurrection de Christ dans nos vies? Qu'est-ce que Jésus a venu faire pour que nous soyons enfants de Dieu, mais aussi comment marcher avec le Seigneur. Je pense que c'est important qu'on a beau dire qu'on aime le Seigneur, mais aimer le Seigneur, ça demande du changement. Dis à ton voisin, c'est pas facile. Le changement n'est pas facile. Alléluia. Si on veut être honnête avec ça, tout le monde a ses luttes, tout le monde a ses combats. Mais nous avons une bonne nouvelle, Jésus-Christ est ressuscité, il peut changer nos vies, alléluia. Donc, on va regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 8. On va vous souhaiter, moi et mon épouse, un bon dimanche de Pâques. Et prenez du temps dans vos familles, c'est important. Moi, je réalise, Manon, sa mère, son père est décédé, le mien aussi. Mais tant qu'ils sont là, profitez-en. C'est un cadeau que Dieu vous donne d'être avec vos parents, vos familles. Il n'y a pas de plus grande richesse que d'être avec sa famille. C'est votre premier ministère, c'est la famille. C'est pas là. La première préoccupation, c'est ta famille. Après ça, on sert le Seigneur, c'est sûr, mais prends soin de ta famille. Dis-lui que tu l'aimes. C'est précieux. Nous, on s'en aperçoit, on les a pus. Puis des fois, on y pense, puis on aimerait ça d'être avec eux autres. Alléluia. Donc, prenez soin de cette belle journée. C'est une journée pour ça en même temps, familiale. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 3 au verset 8. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants pour nous aujourd'hui décédés, là, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme un avorton. » Seigneur, on veut te dire merci ce matin pour la louange, l'adoration. Seigneur, qu'on puisse ouvrir notre cœur pour se prosterner à tes pieds. Tu es le roi. Tu es acclamé. Le ciel t'acclame, la terre t'acclame. Seigneur, tu es digne de recevoir toute notre adoration. Seigneur, et notre louange. Ce matin, en travers la parole, viens nous faire du bien. Viens nous encourager, nous fortifier. Montre-nous l'importance, Seigneur, d'être sauvé avec toi. Père, dans le nom de Jésus, on te prie. Amen et amen. Donc, nous voyons dans notre texte que la parole nous enseigne et prouve que Jésus-Christ est bien ressuscité d'entre les morts, qu'il est revenu à la vie. L'apôtre Paul, ici, va étale, c'est-à-dire la réalité de la résurrection, qu'il a eu, que Jésus est apparu à 500 personnes, qu'il est apparu aux apôtres, que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau. La preuve qu'il est ressuscité d'entre les morts, même si Saul de Tarse a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il a entendu une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus lui dit, « Je suis celui que tu persécutes. » Donc, Jésus-Christ, il est vivant. Alléluia! C'est une bonne nouvelle. On va le voir ce matin. L'apôtre Paul va nous parler de l'importance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 12. 14 et 17. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner entre-temps la crucifixion, la mort de Jésus, donc Paul a prêché cette mort-là. Mais si Christ ne sera pas mort, si Christ ne sera pas ressuscité des morts, est-ce que Paul aurait donné sa vie en sacrifice pour prêcher le message de l'Évangile? Est-ce que les 12 apôtres qui ont vu Christ, qui ont mangé avec Christ, qui l'ont vu dans la résurrection, est-ce qu'il sera mort pour Christ s'il n'y aura pas eu de résurrection? Non. Donc, ils prouvent qu'en travers leur vie, ils servent un Dieu vivant. Alléluia! Sans la mort de Jésus-Christ ce matin, personne ne serait ici. Personne ne serait sauvé. Tous seraient encore dans le péché. Il n'y aura pas de message du salut. Et c'est ça Paul est en train de nous enseigner à travers les versets. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Le message de Jésus, le message de la croix, de la résurrection, c'est le message central des apôtres. Et ça devrait, l'Église, c'est son message. Il n'y a pas plus grand message que de prêcher le message de la croix. Il n'y a pas de plus gros message qu'on ne peut pas faire. C'est le message qui nous est destiné. Alléluia! Donc, je dis sur mon vent, les gens, si même posent la question, qu'est-ce qu'on va dire? On ne sait pas comment. Mais dites simplement qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est votre témoignage que Jésus est vivant. Allô? Donc, les gens, mais moi, je ne suis pas capable. Tout le monde est capable de témoigner. Dites donc, moi, je suis capable de témoigner. Capable de dire qu'est-ce que Jésus fait dans ma vie. C'est la preuve que Jésus-Christ est ressuscité dans notre vie. Vous savez, Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, il n'était pas possible de retenir Jésus-Christ d'entre les morts. Le caractère, je dirais, de Dieu exigeait ceci de la résurrection. Dieu devait ressusciter son Fils de la mort pour montrer qu'il était pleinement satisfait de l'œuvre de la rédemption à la croix. Jésus-Christ, par sa mort, a pleinement satisfait à la volonté du Père. Hébreux 9, verset 12. Il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, par le sacrifice, maintenant l'ancienne alliance est remplacée par une nouvelle alliance. Cela, ça veut dire que le sacerdoce de l'Ancien Testament, la prêtrise, les sacrifices d'animaux, où ça prenait le sang pour le pardon des péchés, qui était juste couvert, en réalité, c'est ce qu'on a parlé dimanche, vendredi, maintenant, la loi sera plus écrite sur la table du roc, mais elle va être écrite dans notre cœur. C'est la nouvelle alliance où le Saint-Esprit vient dans notre vie et qui va nous éduquer. Son sang, le sang de Jésus-Christ, a été l'agneau parfait qui enlève du monde, qui déracine le péché. Il devient notre berger, il devient notre pasteur, il devient notre souverain sacrificateur, il devient mon confident. Alléluia. Donc, après avoir fait un seul sacrifice pour nos péchés, il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Dieu le Père a fait asseoir son Fils vraiment à côté de lui. Il l'a souverainement élevé. Et la Bible nous dit, selon Philippiens 2, verset 9 et 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia, Dieu le Père. Donc, Jésus-Christ, je le répète, Dieu le Père, lui a donné le nom au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Dieu le Père a abaissé le Fils Jésus-Christ, son Fils, mais le sacrifice a été accepté. Hébreux, chapitre 7, 2, verset 7, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes ces choses sur ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes ces choses, lui, qui est toute chose est soumise, parce qu'on n'est pas encore parti. Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons comment? Qu'est-ce qui est écrit? Nous le voyons comment? couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc, Jésus a été couronné de gloire, d'honneur par son Père. Sa mission est accomplie en tant qu'homme, en tant que Dieu. Dieu le Père lui a soumis toutes choses. Et Hébreux 2, versets 14 et 15, je veux juste aller plus rapidement. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que la mort, que par la mort, il a anéanti celui que la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, en tant qu'homme, quand il est venu sur cette terre, en travers la croix, en travers la puissance de la croix, maintenant, notre ennemi est vraiment sous les pieds de Jésus. Par la résurrection de Jésus-Christ, Satan a perdu tout pouvoir sur la terre, sous la terre, et il a perdu son autorité sur ta vie à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia! La victoire de la croix, c'est le plus grand message. Acte 2, 31-33, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que la chair ne verra point la corruption. C'est Jésus que Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Et nous devons être des témoins de la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. Dis à ton voisin, je veux être ce témoin, alléluia, le témoin de la victoire dans ma vie. Ça marche avec la croix, la puissance. La mort a été vaincue, il est ressuscité et les morts, la tombe est vide. C'est la bonne nouvelle. Les disciples l'ont affirmé et nous aussi, nous pouvons l'affirmer qu'il est vivant. Par cette grande victoire, non seulement que Jésus a enlevé tout pouvoir à son ennemi, mais a redonné à l'homme la bénédiction. Nous sommes un peuple béni par la croix de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple racheté. Dieu a redonné à l'homme la bénédiction, la faveur de Dieu sur nous, son amour, pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. La résurrection de Jésus-Christ a démontré sa supériorité face à notre ennemi. La preuve, Éphésiens 1, 22, il a tout mis sur ses pieds. Il a tout mis sur ses pieds. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Donc, l'ennemi, il est vaincu. Oh, hallelujah! Il est vaincu. Pourquoi, peuple de Dieu, nous vivons souvent dans la défaite? On doit vivre dans la vie du ressuscité. Hallelujah! L'ennemi n'a pas le pouvoir sur ma vie. Arrêtons de dire l'ennemi est plus fort que nous. Non, il est vaincu. Non, je suis victorieux. Le langage que vous dénoncez, le langage que vous prononcez va faire la différence dans votre vie. Si vous êtes négatif, il n'y a rien qui se passe. Sois positif dans tes paroles. Allô? Si tu es ressuscité, tu vas le démontrer, tu es ressuscité. Tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas confesser la parole de Dieu, tu vas méditer, tu vas proclamer qu'est-ce que la Bible a pour ta vie. C'est la vie, c'est la résurrection. Vous êtes dans la victoire et la destination finale de Satan, ce sera le lac de feu avec ses démons. Deux destinées complètement différentes. Le message de la résurrection, c'est le cœur de notre message. La mort, la résurrection, pour que nous venions aux justices de Dieu. J'aime la justice de Dieu, parce que je la comprends de mieux en mieux pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, parce que son sang, à travers le sang de Jésus, nous retrouvons la faveur de Dieu. Réalisez cette grande justice qui est sur votre vie. Vous retrouvez en bonne position devant le Seigneur. Le sang parle pour toi. C'est le message. Le sang. Oh, comment de fois je précise sur le sang. Puis je me fatigue pas de prêcher le sang. Parce que le sang, c'est ma vie, c'est ma victoire, c'est ma destinée. Tout ça à cause du sang. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a plus de malédiction sur ma vie. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Je suis juste aux yeux du Père. J'ai la faveur de Dieu. Et si j'ai péché, j'ai un avocat fidèle et juste qui plaide pour moi. Le sang plaide pour moi, pour me délivrer. Alléluia. Plus de malédiction. Je dois plus vivre dans cette mentalité-là. L'accusation va partir. Il a été vaincu également par la résurrection. Nous allons recevoir également une rédemption complète à l'enlèvement de l'Église. On va avoir des nouveaux corps. On va être parfait. Alléluia. Nous allons être glorifiés avec le Seigneur. Et sa résurrection fait également que nous sommes des vainqueurs. Dis à ton voisin, je ne suis pas un vaincu. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, moi. Alléluia. Pensez vainqueur un matin. Pensez victoire. La croix, elle est venue également me donner une nouvelle position. Une nouvelle identité. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est changé de place. Le message a bouleversé le monde entier et qui doit encore bouleverser notre monde. L'enfer, vous savez, n'aime pas qu'on parle de la mort, de sa résurrection. Satan et le monde diabolique n'aiment pas l'odeur du sang. C'est sa victoire, c'était sa défaite. Donc, il n'aime pas. Ce matin, j'aimerais parler avec vous sur deux points. C'est quoi pour nous la résurrection? Et je réalise que, vous savez, quand on écoute des games de hockey, des games de soccer, quand les choses ne vont pas bien, qu'est-ce que les coachs font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à la base du jeu. Est-ce que c'est vrai? Nouveau coach arrive, commence à coacher, puis il veut plus ci, puis il veut plus ça, puis commence à relancer son équipe. C'est un nouveau coach. Donc, il y a une nouvelle façon de faire les choses. Et ce matin, j'aimerais regarder les bases de la vie chrétienne. Et souvent, il faut se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait, puis qu'est-ce qu'il veut que Jésus qu'on avance avec lui également. C'est quoi pour nous ce matin la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? Donc, j'aimerais, pour commencer, ça nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 5 et verset 6, « Nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, par ma nouvelle naissance, nous avons été régénérés. » Lisons ensemble Tite, chapitre 3, verset 4 et 5. C'est tout le monde, on est tous dans le même bateau un matin. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, le renouvellement de l'esprit. Donc, l'apôtre Paul nous cite, « Donc, quand on croit en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement, que je crois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, le sang de Jésus vient me libérer de mes péchés, il vient me nettoyer, il m'apporte le salut par grâce. » Sinon, on est d'accord avec ça? Aussitôt qu'on fait ce geste, au moment où nous croyons en Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour le pardon du péché, le Saint-Esprit te ressuscite de ta mort spirituelle. La même chose, tu étais mort, maintenant tu ressuscites avec le même esprit que ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, Jésus vient pour te donner une vie nouvelle, une vie spirituelle nouvelle, également l'éternité, et par la résurrection, donc nous sommes lavés de notre vieille vie. Donc, arrêtons de dire, on est juste des pauvres pécheurs, on n'est plus des pauvres pécheurs. Allô? On va regarder ça plus loin. Le Saint-Esprit vient te reconnecter avec le Père. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu deviens sa maison. Tu deviens sa priorité. Tu es scellé, adopté du Saint-Esprit. Tu reçois le sceau royal sur ta vie. Ta vie appartient à Christ. Et nous apprenons à vivre une nouvelle vie. Pas juste une vie de pécheur, mais une vie du ressuscité. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Romains 8, 11. Si l'Esprit, écoutez bien, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à qui? À vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Tu passes de la mort à la vie. Nous changeons de gouvernance, nous changeons de royaume, Nous adhérons à un royaume de royauté, un royaume de lumière, un royaume de vérité, un royaume qui nous emporte la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que le Saint-Esprit, par ta régénération, il t'accorde un nouveau départ. Puis on dirait trop souvent, nous sommes encore sur la ligne d'arrivée, on n'a même pas parti. Il faut que ça décolle à quelque part, cette nouvelle vie-là. Allô? Une nouvelle vie qui doit t'emporter l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu. Ta vie doit s'aligner sur la droiture du cœur. Tu passes des ténèbres à son admirable lumière. Tu deviens co-héritier de la grâce de Dieu. Alléluia! C'est un héritier, moi. Vous êtes des héritiers. Alléluia! Écoutez bien, j'ai sorti 24 points. Je vais aller rapide, là. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait dans nos vies? Premièrement, nous sommes déclarés justes. Deuxièmement, nous échapperons à la condamnation éternelle. Troisièmement, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Quatrièmement, nous sommes conduits dans la sainteté. Cinquièmement, nous sommes justes et saints. Sixièmement, nous reprenons vie à la résurrection des morts. Septièmement, nous sommes une nouvelle créature. Huit, nous sommes en règle avec Dieu. Neuf, nous sommes avec les autres, avec tous les autres croyants. 10, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. 11, nous sommes saints et sans défaut devant Dieu. 12e, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. 14, nous sommes libérés de nos péchés. Nous sommes placés sous l'autorité de Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes proches de Dieu. Nous participons aux promesses de Dieu. Nous sommes entrés librement, on peut rentrer librement dans la présence de Dieu. Nous sommes morts du corps de Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes délivrés de notre vieille nature pécheresse et nous jouirons de la gloire éternelle. Wow! Wow! Réalisez qui nous sommes ce matin. Vous êtes enfants de Dieu, nouvelle créature. Alléluia! Paul nous enseigne le pourquoi que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, parce que le sang de Jésus nous déclare juste devant son Père. C'est encore le sang. Nous sommes rétablis avec le cœur de Dieu. Le sang de Jésus a lavé mon ancienne vie. Ma nouvelle citoyenneté est royale. Tu es un enfant royal. Dis à ta personne, je suis un enfant royal, moi. Oh, mais ça fait du bien à l'ego, hein? Je suis un enfant royal. C'est ça la Bible nous enseigne. Vous êtes fils, vous êtes fille du roi. Mon esprit témoigne à mon esprit que je suis sa fille, que je suis son fils. Je peux m'approcher du trône de la grâce. Il y a une route nouvelle qui a été pavée par le sang de Jésus. Hébreux 10, verset 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Moi, ma nouvelle route, je l'appelle la 777. Elle est parfaite. Il n'y a pas de contravention. Je n'ai jamais de ticket sur cette route-là. Je peux rouler à la vitesse que je veux. Je peux aller tranquillement. Je peux aller vite. Mais le voile est déchiré. Je n'ai pas de contravention sur cette route-là. C'est une nouvelle route. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Je peux entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mon esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas simplement vivants, mais nous sommes ressuscités. Le sang parle à ma faveur. Cela veut dire que nous allons jouir des nouvelles valeurs spirituelles pour vivre une vie heureuse, pour vivre une vie épanouie. Combien ont besoin de cela? Honnêtement, là. L'épanouissement de la vie chrétienne. Il y a trop de grincheux dans nos églises. Honnêtement, je vais le dire comme ça. Je me permets de dire des choses comme ça aujourd'hui parce que j'ai passé des temps grincheux dans ma vie. Ce n'est pas un chrétien épanoui, un chrétien qui est grincheux, ce n'est pas un chrétien épanoui. Allô? Il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a de la paix, le Seigneur nous aime, alléluia! Le grincement, mettez ça à la porte ou mettez de l'huile dessus un petit peu, ça fait du bien. Nous sommes du côté de la résurrection. Et non du côté de la tombe. Alléluia! La tombe est vide. Revenez pas dedans. Deuxièmement, je suis content tantôt que vous parliez du baptême d'eau parce que j'étais dirigé en travers cela. Vous allez dire, parlez du baptême d'eau un dimanche de Pâques. Vous allez voir que ça va avoir bien du sens. Vous savez, Jésus a dit, dans Matthieu 28, verset 18 et 20, et ceux qui vont enseigner le baptême d'eau, peut-être ça va vous donner des idées, là. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je me souviens à mon baptême d'eau, on m'avait dit, puis c'est vrai, Serge, tu passes par les eaux du baptême, tu vas ressusciter avec une nouvelle vie. Ta vieille vie est dans le fond. Bien, avec les années, je me suis aperçu que c'était plus que ça, mon baptême. Il y avait quelque chose qui était plus que ça, là. Et c'est ça que je veux parler ce matin. Vous savez, il y a une grande révélation dans le baptême d'eau. Et souvent, on oublie ces choses-là. Le baptême d'eau, le fait de se faire baptiser d'eau dans notre corps par immersion complète, est important pour l'enfant de Dieu. Vous savez, si vous faites des études, si vous poussez un petit peu plus loin, à l'époque de Jésus, il y avait des philosophes, il y avait des pharisiens, il y avait des sadduciens qui baptisaient leurs membres. Et leur baptême, ils voulaient s'identifier avec ces gens-là. Donc, ils voulaient s'identifier à leur philosophie, à leur mentalité, à leur façon de vivre. Et le baptême était associé à la nation de la transformation dans son mode de vie et de sa façon de penser. Quand les gens se faisaient baptiser, ils signifiaient ceci au monde. Donc, je prends un engagement à suivre mon maître, car je veux recevoir son enseignement. Je veux être éduqué à ta façon de penser, à ta façon. Je veux m'identifier à ta culture, à ta mentalité. Je veux être disciple pour que tu m'enseignes ta philosophie, car j'adhère à être un de tes disciples. Je veux marcher avec toi main dans la main et devenir un fier représentant de mon maître. Je m'associe à toi. Et quand les nouveaux membres se faisaient baptiser, donc ils déclaraient publiquement, je déclare que je me soumets à tes courants de pensée. Donc, je m'engage avec toi. À chaque fois qu'on va me voir, ils vont savoir à qui j'appartiens. Ils vont entendre de mon langage un nouveau langage. Bon, écoutez bien. Ça leur démontrait le sérieux de leur engagement à suivre leur nouveau maître. Et en se faisant baptiser d'eau, ils renonçaient à vivre comme autrefois. Et par le baptême, maintenant, ils laissaient au fond de l'eau leur vieille façon de vivre qui restait au fond de l'eau pour adhérer à une nouvelle philosophie. Voyez-vous, c'est pas juste dire « t'arrives dans l'eau, puis on te sort de l'eau, puis yes, tout est beau ». C'est pas ça. Pour adopter une nouvelle vie, pour adopter cette nouvelle culture, il faut s'éduquer à quelqu'un. Donc, la vieille mentalité pourrait rester au fond de l'eau pour adhérer à cette nouvelle culture, pour vivre avec la philosophie du nouveau maître. Et cela est également vrai pour nous. Le baptême est associé à notre transformation de mode de vie et de la façon de penser. Quand on se fait baptiser, on signifie à tout le monde que je prends un engagement à suivre mon nouveau maître, qui est Jésus. Donc, je déclare que tu veux recevoir ton engagement, ses enseignements. Donc, tu veux être éduqué à la façon de Jésus. Tu veux être le disciple de Jésus. Tu veux suivre son royaume, sa mentalité, sa culture, sa façon de penser. Tu veux marcher avec Jésus main dans la main. Tu veux devenir un fier représentant de Jésus. Je m'associe avec Jésus. Et quand tu te fais baptiser, tu déclares publiquement que tu te soumets à ces courants de pensée. Je m'engage avec toi. Puis à toutes les fois que les gens vont me voir ou que je vais parler de mon maître, mon langage va démontrer à qui j'appartiens. Ça rentre un petit peu plus loin que juste du baptême, là. On rentre dans la pensée de la mentalité du royaume de Dieu. Ta culture, ces gens disent là, ils disent ta mentalité sera la mienne, ta culture sera la mienne. Je veux t'imbimer de tes pensées, je veux vivre avec tes principes. Ça nous montre le sérieux de notre engagement. Moi, c'est comme ça que j'enseigne le baptême d'eau. Pour moi, c'est mon engagement à suivre Jésus-Christ. À suivre mon nouveau maître. Tu es fier de t'identifier à Jésus-Christ pour devenir un disciple de Christ. Ce qui veut dire que ton baptême d'eau, par le baptême d'eau, ton ancienne façon de vivre doit rester au fond de l'eau. trop souvent, le vieil homme nage plus souvent que le nouveau. Donc, il faut être prêt à mourir à notre vieille vie pour ressusciter dans une nouvelle vie, dans la résurrection de Christ. Romains, chapitre 6, versets 3 et 4, « Ignorez-nous tous qui avons été baptisés en Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons comment? » Qu'est-ce qui est écrit? En nouveauté de vie. Est-ce que c'est écrit en nouveauté de vie par ton baptême? Ce qui veut dire que par ton baptême, je renonce à vivre comme autrefois. Pour vivre en nouveauté de vie dans la résurrection de Christ. Tu t'identifies à Jésus-Christ. Ta vieille vie est morte. Tu adhères au royaume de Dieu dans une nouvelle vie parce qu'il y a un homme nouveau qui prend place. Éphésiens 4, 24. Paul nous encourage à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Bon. Paul nous dit de revêtir l'homme nouveau. En Christ, le vieil homme n'existe plus. Je suis là. On est là. Mais moi, dedans, c'est plus le même. C'est ce qu'on dit. Le Saint-Esprit vient pour nous mettre conformes à l'image de Dieu. Il nous a revêtis de l'homme nouveau. Le nouvel homme va mettre dans sa vie l'enseignement de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il doit y avoir un renouvellement dans nos pensées. Et c'est qu'est-ce que Paul nous enseigne? Romains 12, 12, 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Paul nous dit que je sois transformé, de ne pas me conformer au siècle que nous vivons dedans. Donc, par la régénération, par votre baptême d'eau, tu ne peux plus vivre comme autrefois. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous ne pouvez pas avoir plus clair que ça, je vous dis un matin. Il doit avoir du changement. Et le verbe grec pour changement de Romains, c'est l'idée d'une métamorphose, comme un papillon qui est dans sa coquille, puis qui va, dans son cocon, qui va sortir transformé, qui va être un papillon. Ce changement est nécessaire. Et Dieu veut changer, il veut nous métamorphoser. Combien sont, ils aiment ça être métamorphosé? C'est le changement. L'épreuve, ça sort. L'épreuve, ça change. Mais ça fait du bien, parce que de quoi de bon qui sort? Vous savez, cette transformation intérieure va passer de l'intérieur, puis on va aller après ça vers où? Vers l'extérieur. Ça va pareil. Donc, ce renouvellement de l'intelligence également, ce genre d'information s'effectue uniquement quand vous allez coopérer avec l'Esprit de Dieu. Tu auras beau lire ta parole, la connaître parole, la connaître par cœur ta parole, mais s'il n'y a pas de changement, il y a quoi qui ne va pas? Allô? Tu as beau dire, tu as beau faire tout ça. Mais quand les temps vont arriver, est-ce que tu vas être capable de mettre cette lieu en pratique? Allô? On doit coopérer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour transformer nos pensées par l'étude, par les méditations de la parole de Dieu. C'est le salut, c'est l'Esprit de grâce qui habite dans nos vies. Alléluia! Merci Seigneur pour la grâce. Écoutez, j'aimerais encore aller plus loin. Ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas mes convictions de mon âme qui doit dicter ma conduite. Mais l'Esprit de Dieu qui doit conduire ton esprit dans la révélation de la parole de Dieu. Et on a besoin de cette révélation de la parole de Dieu. Alléluia! Et ton esprit doit s'y soumettre. C'est plus juste d'avoir des convictions, là, mais non, c'est la conviction du Saint-Esprit qui vient changer nos cœurs. Et c'est ça qu'on a besoin, des convictions où que l'Esprit de Dieu vient changer nos cœurs pour nous emporter dans la vérité. Pour devenir semblable, devenir à la stature parfaite de Christ. C'est la nouvelle création que vous vivez. Les choses sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Tu ne vas plus ressembler à ton ancien homme parce qu'il y a un homme nouveau qui est là. Reflétons-nous ce matin cette nouvelle âme. Allô? Ou vos convictions personnelles sont plus importantes? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Allô? Je pose des questions ce matin. C'est des questions qu'il faut réfléchir. Le vieil homme est mort et tu dois vivre dans les choses nouvelles. L'homme nouveau, écoutez bien, je vais aller encore plus loin. Les gens doivent voir en nous une vie transformée. Tu dois porter en toi l'amour de la vérité, celle du Saint-Esprit, qui fait porter la gloire de Dieu sur ta vie. Et par la vérité, les gens vont voir en vous un homme et une femme transformés. Et quand les gens voient des gens transformés, donc ils vont dire, il a tellement changé que je ne le reconnais pas. Allô? Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Quel témoignage qu'on dégage? Il a tellement changé, il est toujours rendu à l'église. Il a tellement changé, je ne veux plus boire d'alcool. Il a tellement changé, il ne prend plus de drogue. Il a tellement changé, je ne le reconnais pas. C'est ça un témoin. Un homme changé et transformé. Alléluia. On n'est pas parfait, mais on s'en va sur la route de la perfection. La transformation, elle devient possible parce que l'onction de Dieu vit en vous. Le Saint-Esprit vit en vous. L'homme nouveau l'enseignement de l'Esprit de Dieu qui nous a ressuscité des morts. 1 Corinthiens, je ne serai pas trop long, là. 1 Corinthiens 2, 11 et 12. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc, par la résurrection de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, nous vivons dans un nouveau royaume. Faut que tu le dises, tu ne vis plus dans le même monde. Tu n'es plus sur la même planète, je voudrais dire, dans tes pensées. Son enseignement, l'enseignement du Saint-Esprit, même enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu, à même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Il est le même Dieu. Et l'enseignement que l'Esprit vient nous donner, c'est la même chose que les disciples ont reçu. Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera quoi? Toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est le même Esprit qui vient nous rappeler toutes choses que Jésus a fait. Alléluia! Donc, l'éducation du Saint-Esprit est la même que Jésus a donnée à ses disciples, et le Saint-Esprit est uni avec Dieu le Père, Dieu le Fils, et cette parole nous emporte la révélation, elle nous libère, elle nous guérit, elle nous restaure, elle nous relève, elle nous transforme. Wow! Donc, elle nous accorde la victoire. Mon homme nouveau vit maintenant dans la mentalité du royaume. C'est à nous à ne pas succomber à la chair, elle est morte. Je vais aller dans un dernier point rapidement. Un de nos problèmes, puis on est tous dans les mêmes lignes de pensée, malgré notre nouvelle naissance spirituelle, malgré notre baptême d'eau, beaucoup de gens se voient juste pécheurs et sauvés par grâce. Mais je vais mettre un petit plus ce matin. J'aimerais dire que le pouvoir de la croix, la puissance de la croix, de la résurrection de Jésus-Christ que nous fêtons ce matin, que nous réalisons, n'est pas simplement régler le pardon du péché, mais il a changé ma nature au complet. Il a changé vraiment toute chose. Ma chair est crucifiée avec Christ. Et c'est ça que Paul nous dit, c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, nous sommes saints. Dis à ton voisin, je suis saint. Je suis un saint. Vous êtes vraiment sanctifiés, justifiés. Vous êtes des saints. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des saints. Pas toujours des saints anges, là, mais quand même, on est saints. On s'entend? Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je reflète. Je dois refléter l'enfant de Dieu. Il faut arrêter, je le répète pour une deuxième fois, arrêter de se rendre à la tombe. 2 Pierre 1, 4. Je termine dans 2 minutes et demie. On arrête tellement de choses à dire, là. 2 Pierre 1, 4, « Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants, que nous devenions participants de la nature divine. » en fuyant la corruption qu'il existe dans le monde par ses convoitises. Par le sang de Jésus, ce matin, la parole nous dit que nous venons participants à la nature divine. Donc, pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a appelés à sa gloire. Alléluia! Jésus-Christ est mort pour ces choses-là. Il est venu nous emporter sa gloire et par sa vertu pour que nous venions des participants de la nature divine. Hey! Réalise que je suis en train... T'es une nature divine, là. T'es pas n'importe quoi, là. T'es pas la poubelle de la société. T'es pas un vaurien. T'as de la valeur devant Dieu. T'es une nature divine, un enfant royal. Alléluia! Donc, si on réalise qui nous sommes, nous allons changer de vocabulaire. Allô? Et c'est pourquoi que la nature, la vieille nature, elle doit disparaître dans votre vie. Vous êtes d'une nature divine. Dis à la personne de côté de toi, je suis de nature divine. Je suis de nature divine. Ça a l'air à vous épater maintenant, je vous dis ces choses-là. Mais c'est votre identité. Voyez-vous pourquoi que Christ nous a ressuscités? Voyez-vous que la mort de Jésus qui est ressuscité, c'est pas juste pour dire t'es sauvé. Non! Tu vas vivre avec pour l'éternité. T'as une nature divine sur ta vie. Tout cela par la mort et la résurrection. Tu as été lavé de tes péchés. Vous avez tous ce matin, tous pour vivre dans la puissante onction du Saint-Esprit. C'est notre position d'enfant de Dieu. Nous sommes morts, ressuscités pour vivre dans la puissance. C'est une réalité, c'est notre position. Êtes-vous content d'avoir cette position-là? La puissance de la résurrection, c'est une pleine victoire pour vivre en nouveauté de vie. Combien sont prêts à dire un matin avec moi, il y a bien des choses qui changent dans ma vie. Soyez honnête avec vous, là. Soyez honnête. Moi, fais juste demander à ma femme, elle va te dire qu'est-ce qu'elle a besoin de changer. La liste, elle va être assez longue. Et humblement, je suis obligé de me soumettre. Oui, mon amour, tu as raison. Comprenez-vous? On n'est pas parfait. Mais en Christ, on est parfait. Je ne suis pas parfait, mais Christ me voit parfait par le sang. Et ça, c'est notre identité. Je termine. Je veux lire ça peut-être notre sœur Sylvie. Tu as joué une petite note de piano en arrière ou un chant sans musique ou me mettre une petite musique douce. C'est-tu possible? Oups, je pense que je vais prendre les culottes à terre. Là. Oh, c'est pas grave, gars. Je veux terminer avec ce Apocalypse ce matin. C'est vraiment glorieux. Apocalypse 7, versets 9 et 10. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de panne dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu. Et en disant, Amen, la louange, la gloire, l'honneur, la sagesse, l'action de grâce, la puissance, la force soient notre Dieu au siècle des siècles. » Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et un jour, nous allons rentrer dans le lieu saint, très saint, avec Dieu. Tous ceux qui seront présents dans le lieu saint, tous ont en commun une robe blanche. Les pâles palamiers, la robe blanche, la couleur du racheté, la sainteté qui représente la sainteté et la pureté, les vêtements blancs. Et un jour, il y aura des grandes noces et nous aurons ces robes blanches-là. Et les palmes également, qu'ils tenaient dans les mains, ils prenaient ça dans les fêtes. Donc, il y a une grande fête qui s'en vient également. Alléluia! À Dieu soit la louange, la gloire et l'honneur. Combien peuvent dire avec moi ce matin, alléluia, je vais me regarder différemment. Je vais me voir différemment. Je vais commencer à me dire que je ne suis pas n'importe qui, que je suis un enfant de Dieu. mon ennemi est sous mes pieds. Moi, je m'en vais aller prendre le devant parce que Dieu m'aime. Dieu ne m'a pas condamné. Dieu ne m'a pas rejeté. Mais il m'a pris, il m'a aimé pour vivre avec lui pour l'éternité. Alléluia. C'est le message de la résurrection, une partie du message. Ce matin, on va se lever tous ensemble. Alléluia. Puis j'aimerais ça terminer avec ceci pendant qu'il y a un petit chant. J'aimerais ça t'y aller à ton frère, ta sœur. Puis dis-lui, regarde-lui dans les yeux. Je t'aime. Je prie avec toi pour l'éternité. Je touche, mets tes ennemis tout de suite, là.